Alors, je dois vous parler aujourd'hui de la prostitution dans l'Antiquité, ce qui fait partie de tout un cycle sur la prostitution. Alors, la prostitution, on dit d'elle que c'est le plus vieux métier du monde. Bon, c'est vrai en grande partie dans la mesure où la prostitution apparaît dans toutes les civilisations dès la plus haute antiquité. On en trouve dans la plupart, en tout cas, des pays du monde méditerranéen que nous connaissons. Je connais moins bien les autres pays, mais probablement aussi, ça remonte très, très loin dans le temps. Et il faut bien remarquer qu'il y a peu de changements au cours des siècles dans les données de la prostitution, et ce que je vais vous dire va vous sembler extrêmement contemporain, parce que c'est vrai que de nos jours, nous avons les mêmes attitudes, les mêmes personnages, les mêmes modes de vie, et c'est parce que la prostitution, tout à l'heure je reviendrai sur la façon dont les contemporains ont jugé la prostitution, je pense aux contemporains de l'Antiquité, mais vous allez voir que les raisonnements qu'ils ont sont des raisonnements que nous entendons encore de nos jours. Il faut voir aussi que dans l'Antiquité, et c'est encore plus net dans le monde gréco-romain, la prostitution est étroitement liée à l'esclavage. Les prostituées sont presque toutes des esclaves, même si elles ont atteint un niveau plus élevé qui est celui de l'affranchissement, elles sont toujours quand même liées au monde de l'esclavage. Et c'est pour cela que la femme, l'homme ou l'enfant qui est prostituée dépend d'un maître ou d'une maîtresse qui a tous les droits sur son corps et qui use de son corps pour gagner de l'argent. Nous sommes en présence de la définition même de l'esclavage dans l'Antiquité, c'est-à-dire utiliser un être humain pour en tirer des bénéfices. La prostitution dans l'Antiquité, mais là encore ce n'est pas quelque chose qui va vous étonner, touche aussi bien les femmes, bien sûr, en priorité, et c'est pour ça que la plupart des témoignages que nous avons sont relatifs à des femmes, mais touchent aussi les hommes et les enfants. On a de tout parmi les prostituées. Et puis, il faut bien voir, comme de nos jours aussi, qu'il y a une hiérarchie très, très nette dans la prostitution, que ce soit en Grèce ou à Rome. Je ne vous parle essentiellement que de ces deux civilisations, mais on retrouverait la même chose dans d'autres civilisations. En effet, on a les plus misérables des prostituées, dont je vous parlerai, celles qui sont des rebuts de l'humanité, qui sont les esclaves les plus maltraités, les plus misérables, qui sont debout à peu près nus devant une cellule dans une rue des quartiers populaires généralement de la ville. Elles sont atteintes par la malnutrition, par les fièvres, par les maladies. Elles ne font pas de vieux os, il faut bien le dire. Elles sont très, très, très souvent, elles meurent très souvent très jeunes. Et puis, il y a aussi parmi les prostituées dans l'Antiquité, les courtisanes, on donne ce nom de courtisanes, mais elles sont prostituées comme les autres. Elles sont riches, elles sont adulées, ce sont l'équivalent des cocottes de 1900 ou des call girls de luxe de notre époque. Alors, le vocabulaire de la prostitution, vous voyez le premier mot qui vous est indiqué, porné. Porné, c'est le terme qui désigne une prostituée. Ça signifie tout simplement à vendre, c'est-à-dire que ça pourrait s'appliquer à n'importe quel esclave, mais on le réserve généralement aux prostituées. Et puis on a le mot étaïr que vous avez en dessous, qui désigne en Grèce, en grec ça signifie compagne. Et cela désigne les courtisanes de haute volée, celles qui vont devenir les compagnes, en particulier des personnages célèbres et des hommes politiques. En latin, vous avez le mot meretrix, que vous avez un peu plus bas, le mot meretrix qui signifie la gagneuse. Et puis, le mot le plus courant, c'est le mot lupa, la louve, qui d'ailleurs est resté dans notre vocabulaire pour désigner une prostituée. Alors, pourquoi la louve ? C'est bien entendu l'animal dont il est question. C'est parce qu'on disait, bon, ça aussi, ça fait partie des a priori, on disait que les louves sentaient très mauvais, que les prostituées sentaient mauvais, et que les louves aimaient beaucoup, avoir beaucoup de relations avec les loups. Et pour les Romains, dans leur histoire nationale, se trouve une louve célèbre, se trouve la louve qui a nourri Romulus et Rémus sur le mont Palatin. Et les historiens anciens disaient qu'il ne s'agissait pas en fait d'un animal, comme on le voit représenté toujours, la louve tendant ses mamelles aux deux bébés, mais qu'il s'agissait d'une prostituée qui vivait sur l'Aventin, sur le Palatin, pardon. Et c'est pour ça que ce mot loupa a été ensuite pris pour le nom d'un animal. Alors, dans le vocabulaire de la prostitution à Rome, existe aussi un personnage très important. C'est un terme qui n'existe qu'en latin. En grec, nous n'avons pas l'équivalent, qui est le mot léno. Léno, c'est le marchand d'esclaves proxénète, c'est-à-dire l'homme qui vend ses esclaves comme prostituée. Et c'est un personnage qui a une très grande popularité à Rome, popularité bien sûr de mauvais aloi, hein, je vous le dis tout de suite. Et c'est un personnage très fréquent dans le théâtre romain. C'est un personnage odieux, haïssable, qui ne pense qu'à son argent, bien entendu, qui fait travailler ses filles le plus possible, mais qui est toujours trompé par les personnages intelligents. Voilà donc le vocabulaire de la prostitution. Alors vous voyez, mais ça je vous en reparlerai tout à l'heure, que j'ai mis parmi les noms des prostituées le mot hiérodule. Alors hiérodule, ça veut dire servante sacrée, et ça fait allusion à la prostitution sacrée dont je vous parlerai tout à l'heure. Alors d'où viennent les prostituées dans le monde grec et dans le monde romain? Là encore, l'origine est la même. Elles viennent des marchés, parce que c'est tout un commerce spécialisé, un commerce très fructueux, qui vend sur tous les marchés des esclaves. Alors je vous ai dit, il s'agit aussi bien de femmes, d'hommes éventuellement, et d'enfants, surtout d'enfants, qui se retrouvent sur ces marchés. Et parmi les marchés d'esclaves les plus célèbres dans le monde antique, et cela vaut pour la Grèce et pour Rome, il y a l'île de Délos, la petite île de Délos, qui est une île sacrée puisqu'elle est consacrée à Apollon, mais c'est aussi un très grand marché d'esclaves, et l'île de Rhodes. Et on disait qu'à Délos, à l'époque romaine, on vendait 10 000 esclaves par jour. C'est quand même un chiffre considérable, on voit ce que ça fait dans l'année. On a des marchés dans toutes les grandes villes. On a des descriptions des marchés à Rome où l'on voit les prostituées, les esclaves, parce qu'il y a les prostituées dedans, mais les esclaves qui sont sur des estrades et avec le marchand qui fait valoir leurs qualités différentes. Alors, quelle est l'origine de ces femmes ou surtout de ces enfants? Parce que j'insiste surtout sur cela, et c'est ce qui fait l'horreur de la prostitution dans l'Antiquité, c'est que la plupart du temps, il s'agit d'enfants. Ces enfants, il y a d'une part les enfants nouveau-nés qui sont exposés quand on n'en veut pas à la naissance, en particulier les filles. Les filles sont considérées comme des charges superflues et bien souvent sont abandonnées par les parents. Et c'est vrai qu'on garde plus facilement un garçon qu'une fille. Nous avons une lettre d'un ouvrier égyptien d'Alexandrie qui écrit à sa femme enceinte « Quand tu accoucheras, si c'est un garçon, garde l'enfant, si c'est une fille, expose-la. » Alors ces enfants sont donc exposés au coin des rues, généralement là où on met les ordures, dans la rue. Les parents les plus précautionneux ou les nourrices les plus précautionneux les mettent quand même dans une jarre pour éviter qu'ils soient mangés par les chiens errants ou par les animaux qui peuvent se trouver dans la rue. Mais c'est ces enfants ou bien meurent, bien entendu, ils sont de naissance, il faut bien le voir, ou bien ils sont recueillis par des familles sans enfants, des femmes sans enfants, mais beaucoup plus souvent par des marchands d'esclaves, et en particulier par les marchands de prostituées, parce qu'on trouve là une marchandise qui ne coûte rien et que l'on va pouvoir revendre par la suite cher. On a aussi, comme fournisseurs des marchés d'esclaves et par conséquent de la prostitution, les pirates qui sont extrêmement nombreux en Méditerranée. qui seront éliminés de la Méditerranée en 63 avant Jésus-Christ par le grand général romain Pompée. Et les pirates ont l'habitude de faire des raids sur les côtes des îles ou des terres grecques ou latines ou italiennes ou espagnoles ou enfin toutes les terres de la Méditerranée et de s'emparer des habitants qui souvent sont sans défense, en particulier bien entendu des femmes et des enfants. Donc c'est une grande source d'esclaves et de prostituées pour les marchés d'esclaves. Et puis il faut voir aussi que parmi ceux qui vendent des enfants ou des femmes ou même des hommes pour les livrer soit à l'esclavage, soit à la prostitution, il y a les militaires. Les militaires qui sont en fonction avec leurs armées dans les différentes terres du monde méditerranéen et qui font des prisonniers de guerre et ils vendent ces prisonniers de guerre sur les marchés. Hein, ça leur fait un petit bénéfice pour eux. Alors les prix. Les prix sont très variables parce que lorsqu'on achète un esclave et plus particulièrement lorsqu'un proxénète achète une ou un enfant esclave pour agrandir sa maison, il va considérer plusieurs éléments. L'âge, bien sûr, un enfant de 5 ou 6 ans vaut cher. Une fille de 15 ans vaut déjà moins cher. Je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi. Il y a le sexe, alors là aussi les filles sont davantage recherchées pour la prostitution, et il y a les qualités physiques ou intellectuelles. C'est-à-dire, qualité physique, c'est la beauté, c'est tout ce que peut avoir un enfant ou une très jeune fille de remarquable dans son physique. Et puis, les qualités, alors ça concerne plutôt les enfants ou les jeunes un peu plus âgés, c'est-à-dire ceux qui, par exemple, savent lire et écrire, ou bien ceux qui savent jouer d'un instrument de musique, ceux qui savent chanter, ceux qui sont capables de donner une représentation théâtrale, c'est-à-dire qui sont capables de faire des mimes ou tout ça, ceux-là valent plus cher. Et les prix, par conséquent, sont très variables. On n'a pas d'exemple très précis, mais enfin, je vais vous donner une fourchette qui est un petit peu hasardeuse. Enfin, les esclaves les moins chers, les prostituées les moins chères sur le marché sont vendues probablement à peu près 50 drachmes. Alors la drachme, pour vous donner un ordre d'idée, parce que vous savez c'est très difficile de savoir à quoi correspond une somme d'argent dans l'Antiquité. On sait qu'un ouvrier au 5e siècle avant Jésus-Christ avait un salaire annuel de une drachme. Donc un petit esclave, une petite prostituée vaut 50 fois. Mais là aussi, vous savez, le salaire d'un ouvrier, c'était pas très, très élevé. Et ça peut aller jusqu'à 3000 drachmes. Donc, pour les très belles, les très beaux petits esclaves, les esclaves qui manifestent des qualités exceptionnelles, donc là aussi, tout dépend de celui qui va acheter ses enfants. À Athènes, c'est très curieux parce que nous n'avons pas ça dans les autres civilisations antiques, la prostitution est une institution de l'État. C'est l'État qui dirige la prostitution dans la ville d'Athènes. Et cette législation de la prostitution remonte à Solon. Solon qui est le grand législateur d'Athènes du 6e siècle avant Jésus-Christ. Or, Solon avait établi une législation pour la prostitution. Et un auteur grec lui en fait hommage en disant « Toi, Solon, tu as trouvé une loi pour tous les hommes, à ce qu'on dit. Tu fus le premier à prendre cette mesure démocratique et salutaire. » Retenez ces deux adjectifs pour qualifier la prostitution, démocratique et salutaire. « Voyant dans notre ville beaucoup de jeunes gens qui subissaient les impulsions de la nature et s'égaraient sur de mauvaises voies, il acheta des femmes et les installa dans les différents quartiers, prête et disposée pour tout le monde. » Alors, cette législation solonienne est présentée comme étant, par tous les écrivains grecs d'ailleurs, comme étant une mesure de salubrité publique. Pourquoi de salubrité publique? Pas tout à fait pour les mêmes raisons que pour chez nous. Parce que, d'une part, ça va préserver la pureté de la race. Les jeunes gens vont s'unir à ces femmes, les enfants ne seront pas citoyens, donc ça n'a aucune importance. et d'autre part, ça va permettre d'éviter les agressions contre les femmes et les enfants libres, ce qui est interdit par la loi. Donc les jeunes gens ont un cheptel, en quelque sorte, d'hommes, de femmes et d'enfants qu'ils peuvent utiliser à leur gré et ça n'aura aucune conséquence pour eux. Et puis, on a d'ailleurs cette formule que l'on retrouve chez beaucoup d'écrivains grecs et même chez les écrivains latins, où on distingue les femmes en trois catégories dans une ville. Les prostituées, nous les avons pour le plaisir. Les concubines, c'est-à-dire les étahires, enfin les celles qui sont très riches, pour les soins de tous les jours. Et les épouses, pour avoir une descendance légitime et une gardienne fidèle au foyer. Alors ça a été répété par la plupart des écrivains grecs. Et Solon, qui était un très grand homme d'État, un grand législateur, pensait toujours évidemment au côté matériel de la chose. Et par conséquent, il avait institué à Athènes un impôt spécial. Vous l'avez à côté du mot porné, c'est le pornicon. Le pornicon, c'est l'impôt spécial sur les prostituées. Il y a des collecteurs d'impôts qui sont uniquement chargés de ramasser chez les propriétaires des prostituées qui procèdent des maisons, de ramasser cet impôt. Donc, vous voyez que la mesure de Solon est considérée comme étant à la fois utile à la cité et en même temps rapportant de l'argent, ce qui est quand même extraordinaire. Hein, mais il a été le seul à faire cela. Et il y a à Athènes aussi, parce que Solon avait pensé à cela, des magistrats spéciaux, des sortes de commissaires de police qui veillaient à la sécurité dans les rues et veillaient en particulier à ce qu'il n'y ait pas de débordement de jeunes gens allant visiter les prostituées et qui se livrant à des violences contre les passants. Donc à Athènes, c'est très bien réglementé. L'autre grande ville de la prostitution dans le monde grec, c'est Corinthe, bien sûr. Alors Corinthe, c'est cette ville qui se trouve donc sur l'isthme de Corinthe, à la jonction entre la partie continentale de la Grèce et le Péloponnèse. Et Corinthe était très réputée dans l'Antiquité parce que Corinthe abritait ce qu'on appelle la prostitution sacrée. Bon, il y avait des prostituées habituelles à Corinthe, mais il y avait surtout la prostitution sacrée. Alors, qu'est-ce que c'est que la prostitution sacrée ? C'est une institution qui n'est pas grecque du tout, qui vient d'Asie mineure, qui vient des pays d'Asie mineure, où elle est pratiquée dans différentes régions d'Asie mineure. Et on a dans certains temples, et en particulier dans les temples à Corinthe, c'est dans le sanctuaire d'Aphrodite, bien entendu, au sommet de l'Acrocorinthe. Si vous allez à Corinthe, vous pouvez monter sur l'Acrocorinthe et voir ce sanctuaire d'Aphrodite où il y avait les prostituées sacrées. Alors on les appelle, je vous avais indiqué le mot tout à l'heure, les hiérodules, et elles sont là. Elles sont plusieurs milliers à Corinthe. C'est quand même très important comme institution. Et c'est une forme, en quelque sorte, de culte, je dirais, de culte très particulier, puisque les dévots, les fidèles d'Aphrodite, viennent dans le temple d'Aphrodite, choisissent une prostituée sacrée, s'unissent à elle et versent, bien entendu, un don au temple de Corinthe. Alors, on ne sait pas très bien quelle est la signification de ce rite très particulier. Il y a différentes significations qui ont été données selon les pays. Les historiens grecs en ont presque tous parlé. Hérodote, en particulier, en a beaucoup parlé. Mais c'est pas très clair. Et on n'a pas dans les textes d'autres pays d'informations très évidentes sur cette prostitution sacrée. Ce que l'on sait, c'est qu'elle est très pratiquée à Corinthe, et qu'elle est pratiquée aussi, alors ça je crois que je n'ai pas mis le nom dans ma liste de lieux, elle est pratiquée en Sicile sur le mont Eryx, alors Eryx c'est E-R-Y-X, où il y a de nouveau un temple de Vénus, d'Aphrodite, au sommet de ce mont. Ce qui est curieux, c'est que tous ces lieux de prostitution sacrée se trouvent au sommet de montagne. Bon, est-ce qu'il fallait que le client se fatigue avant d'arriver au haut de la montagne ? On ne sait pas très bien. Et Eryx est aussi très célèbre hein, dans l'Antiquité, donc c'est sicilien, Eryx. Et donc, la prostitution est une des spécialités, si l'on peut dire, de Corinthe, qui est un grand port, hein, puisque c'est le port qui fait la jonction entre les deux parties de la Méditerranée, des deux côtés de la Grèce. Et donc, il y avait énormément d'autres prostituées, pas sacrées du tout, à Corinthe. Et il y avait un proverbe qui courait dans le monde grec, on disait « il n'est pas donné à tout le monde d'aller à Corinthe », tout simplement parce qu'on dépensait beaucoup d'argent à Corinthe, soit avec les prostituées sacrées, soit avec les autres prostituées. Il y a enfin Rome. Alors Rome, vous voyez que les Romains font remonter aussi la prostitution aux origines de la ville, puisque la fameuse louve, en fait, serait une prostituée, serait la femme d'un berger qui se livrait à la prostitution. Alors à Rome, il y a des quartiers plus particulièrement réservés à la prostitution. Il y a Subur, qui est le quartier malfamé de Rome. Ça se trouve dans la partie est-orientale de Rome. Ce sont des petites ruelles, c'est un quartier très populaire. Et c'est là où il y avait la majorité des prostituées. C'est là où elles avaient c'est là où venaient les gens qui voulaient avoir des rapports avec elles. Et puis, il y a aussi le Trastevere ou le Transtevere, vous savez, c'est la partie de Rome qui se trouve de l'autre côté du Tibre, puisque Rome est construite sur la rive droite du Tibre et sur la rive gauche du Tibre. Il y a un quartier qui s'appelle le Trastevere, donc de l'autre côté du Tibre. Alors maintenant, c'est un quartier très, très bobo, hein, le Trastevere à Rome. Mais à l'époque, c'était un quartier très misérable, qui était en dehors de la ville. Hein, il ne faisait pas partie de l'enceinte. Et c'est là où on avait aussi beaucoup de prostituées. On en avait aussi beaucoup sur le forum romain, bien sûr. Le forum républicain, il y en avait beaucoup qui traînaient là pour attirer les clients. Et il y aurait même eu, d'après des textes que nous avons, il y aurait même eu un lupanar, hein, sur le forum romain. Oui, tout à l'heure, j'ai oublié de vous dire, mais je pense que vous aviez fait la relation, c'est que du mot lupa, la louve, vient le terme lupanar, l'antre de la louve, c'est-à-dire le bordel, hein, en quelque sorte. Et puis, il y a autour du Grand Cirque, le Grand Cirque, qui est un lieu de réunion où il y a beaucoup de gens au moment des grands jeux qui sont donnés dans ce cirque. Et bien entendu, dans les arcades qui sont tout autour du Grand Cirque, vous avez énormément de prostituées qui, en particulier, s'attaquent à tous ces étrangers qui viennent à Rome pour assister aux courses de chars ou éventuellement aux combats de gladiateurs. Alors, on a encore quelques noms des lupanars de Rome. On en a une qui s'appelait, dont on a encore en quelque sorte la stèle, le bas-relief qui attirait les clients, qui s'appelait les Quatre Sœurs. Et c'était une sorte de jeu de mots sur les trois sœurs qui sont les trois grâces, vous savez, dans la mythologie grecque. Et là, on voyait trois prostituées, nues, bien sûr, se tenant comme les trois grâces. Et à côté d'elles, assise à côté d'elles, il y avait la tenancière, en fait, la mère maquerelle qui les surveillait. Donc, le lupanar en question s'appelait les Quatre Sœurs. On en a d'autres. À Pompéi, bien entendu, il y avait un certain nombre de lupanars, il y en a un encore. Je crois qu'à l'heure actuelle, on ne le visite plus, on l'a visité pendant longtemps. Il est dans le centre de la ville et si vous êtes allé à Pompéi, vous savez que dans la Via dell'Abbondanza qui traverse Pompéi, on a à un endroit, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, sur les pavés, on a gravé un phallus qui indique la direction en fait du lupanar. Et on a aussi trouvé, il n'y a pas très très longtemps, je dirais 10 ou 15 ans, dans des fouilles qui ont été faites à Pouzolles, qui est donc un port de la baie de Naples, et on a trouvé tout un quartier de l'ancienne ville de Pouzolles sous terre. Et on a trouvé un lupanar, parce que ce lupanar, il correspond à celui de Pompéi, il correspond aussi à ce qu'on trouve dans les descriptions de lupanar dans les romans grecs, en particulier les romans latins, c'est-à-dire qu'il y a une entrée, et puis il y a un couloir. Tout le long de ce couloir, il y a des cellules très petites, hein, elles ont entre 2 mètres sur 1 mètre 50, elles sont très petites, avec une banquette en pierre qui est dans le fond, sur laquelle se trouvait la prostituée. Et à Pompéi, on a encore, mais je crois qu'on ne peut plus le visiter à l'heure actuelle, ça a dû être transporté, je pense, au musée de Naples, on avait au-dessus de chaque cellule, on avait une petite peinture, une petite fresque qui représentait les spécialités particulières de la prostituée qui était dans la loge en question. Et puis, donc, on a, ça montre, enfin, c'est assez sordide, il faut bien le dire, mais c'était comme ça que se présentaient les lupanars. Alors, le problème, c'est qu'à l'heure actuelle, on n'a pas tellement fouillé, ça c'est une petite confidence que je vous fais, on n'a pas tellement fouillé le lupanar de Pouzol, parce qu'il se trouve sur les locaux de l'archevêché. C'est un peu gênant. Donc, on le fouille assez peu. Bon, enfin bon, il existe, les archéologues l'ont vu. Alors ça, ce sont les lupanars dans lesquels on fait venir, bien sûr, les clients. Mais bien entendu, il y a du racolage dans tous les ports. Hein. Les ports sont évidemment les grands lieux où vous avez soit les prostituées elles-mêmes, soit des émissaires du lupanar où elles exercent, qui viennent chercher les gens qui descendent des bateaux pour les amener dans les lupanars d'où ils viennent. Et on a trouvé, en particulier, on a trouvé, je crois que c'est à, je sais plus, c'est dans un port de l'Italie, on a trouvé des sandales, la semelle de la sandale est garnie de clous qui inscrivent sur le sol « Suis-moi ». Donc, ça permettait la prostituée se promener, et si un homme était intéressé, il pouvait suivre la prostituée. Alors, voilà les grands lieux. En quelque sorte de la prostitution, mais il faut bien dire qu'il y en a dans toutes les villes, bien entendu, c'est comme de nos jours, il y en a partout. Toutes les villes du monde grec et romain en ont. Bon, les mieux connus sont évidemment ceux de Pompéi, de Rome, parce que les écrivains romains en ont beaucoup parlé, donc les écrivains grecs un peu moins, mais les écrivains romains en ont beaucoup parlé. Alors on a plusieurs catégories de prostituées dans le monde grec et dans le monde romain. Il y a les prostituées de la rue, celles qui font du racolage autour du grand cirque, autour des ports, ou celles qui sont, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, assises sur un tabouret dans les rues, mais les rues de Subur, par exemple, hein, qui sont ces rues très, très populaires, très populeuses aussi. Elles sont assises sur son tabouret, elles sont presque nues, elles ont pas, pour ainsi dire, pas habillées, et derrière elles, il y a une petite loge, mais qui est minuscule, hein, où elles tiennent tout juste debout, et avec un rideau. Et le rideau, enfin ça aussi, on a des textes latins ou grecs qui nous en parlent, le rideau est percé de trous par les voyeurs, hein, par les voyeurs qui veulent se rendre compte de ce qui se passe. Alors elles font bon, du racolage, et lorsque quelqu'un est intéressé, il rentre avec elle, on tire le rideau, et la passe se fait généralement très rapidement. La clientèle de ces prostituées, ce sont les pires des prostituées. Enfin, les pires, j'entends par le mode de vie. J'entends pas par le caractère moral, hein, par le mode de vie qu'elles ont. Le pire, elles ont pour clients tous les gagnes petits de la ville de Rome. Elles ont, dans les ports, elles ont les marins, bien sûr, qui viennent là. Elles ont les artisans. Elles ont tous ceux qui n'ont pas beaucoup de moyens. Les esclaves aussi. Hein, les esclaves fréquentent les prostituées de ces quartiers populaires. Et on sait que la passe, d'après les textes que nous avons, se paie à peu près 2 as. L'as, hein, l'as, c'est la monnaie romaine, la plus petite monnaie romaine, AS. Je ne l'ai pas mise, mais c'est AS. L'as, c'est l'équivalent de 2 portions de vin. 2 portions de vin ordinaire dans une taverne de la ville. Donc, vous voyez, c'est pas très cher. Alors, on a les lupanars dont je vous ai parlé tout à l'heure. On a évidemment les auberges et les tavernes qui sont des grands lieux de prostitution. Chaque fois qu'il est question d'une auberge ou d'une taverne, il y a la salle où on sert à boire aux clients, mais il y a toujours par derrière des prostituées qui viennent d'ailleurs dans l'auberge et la taverne essayer de ramasser un client, quoi. Et nous avons à Pompéi, nous avons beaucoup de graffitis qui sont restés sur les murs de ces tavernes. Alors il y en a certains qui sont quand même un petit peu osés, bien sûr. Il y en a d'autres où on voit les bagarres entre les clients qui ont voulu la même prostituée, et ils se sont tapés dessus, puis il y en a un qui a remporté sur l'autre. On voit les qualités de ces prostituées qui sont évoquées, on voit leur nom, c'est là où nous avons le nom de pas mal de prostituées, et on a évidemment toute cette vie qui ressurgit dans ses tavernes et ses auberges à Pompéi, parce que c'est à Pompéi qu'elles sont restées, bien sûr. Il y en avait partout ailleurs, hein, c'était pas propre à Pompéi, et où on voit effectivement ce mélange entre les plaisirs, parce que bien souvent, les prostituées, elles faisaient des petits spectacles de danse, hein, elles jouaient des castagnettes, elles avaient des petits spectacles de danse qui distrayaient les clients et qui permettaient de faire valoir leur charme aussi. Mais ces tavernes et ces auberges sont parmi les endroits les plus fréquentés, évidemment, et fréquentés pendant toute la nuit, en fait, même si ce n'était pas tellement autorisé. Il faut dire qu'il n'y avait qu'une seule chose qui était interdite dans les auberges et les tavernes à l'époque romaine, hein, c'était les jeux d'argent, c'est-à-dire les jeux de dés en particulier, ou les jeux des osselets, qui avaient été interdits par législation. Mais ça n'empêchait pas les clients de jouer. On en voit d'ailleurs sur les graffitis, on en voit sur les fresques. On voit qu'ils jouent, ils boivent, ils jouent, ils se bagarrent, ils font une passe avec une prostituée. C'est la vie tout à fait quotidienne, je dirais, des nuits de ces villes de l'Antiquité. Et puis, on a aussi, je vous ai parlé de tous ces endroits où l'on trouve des prostituées, il y a un endroit qui semble plus curieux, plus bizarre, mais qui est aussi un grand lieu de prostitution, ce sont les cimetières. Les cimetières qui se trouvent à l'extérieur des villes, et les Romains parlent des louves des cimetières, des prostituées des cimetières, ou les louves des sépulcres. Alors ces louves, elles sont là sur les tombeaux, enfin ou dans les tombeaux, et elles s'adressent à des gens qui sont très, très méprisés par l'ensemble des autres habitants des villes, c'est-à-dire les esclaves qui sont chargés de surveiller les tombeaux, pour éviter qu'on aille piller dans ces tombeaux les richesses que l'on met quelquefois avec les gens. Donc on a des esclaves, c'est le rebut des esclaves, qui passent les nuits là à surveiller en fait, et qui sont très contents d'avoir une petite prostituée qui vient les distraire. Mais comme l'a décrit Plaute dans une de ses pièces, il dit ce sont des filles desséchées, boiteuses, éclopées, sordides, des limaces blafardes, de véritables squelettes, puant le mauvais parfum, laide à faire peur, avec leurs pieds déformés et leurs jambes semblables à des échalas. Alors, description évidemment d'un Romain qui ne voit que le côté sordide de ces femmes. Il faut bien voir que toutes ces femmes, elles luttent en fait pour avoir de quoi manger, parce qu'elles n'ont pas, souvent le propriétaire de leur cellule ne leur donne pas de quoi manger. Donc les quelques as qu'elles vont récolter de la part de leurs clients vont leur permettre de manger. Mais elles mangent mal, et comme je vous dis, elles meurent très jeunes, parce qu'elles sont mal nourries, elles sont malades généralement, mais ce sont vraiment, je dirais, des filles qui sont là simplement pour satisfaire les besoins les plus élémentaires des gens les plus humbles, les plus modestes, les plus décriés de Rome. Et évidemment, elles n'ont rien à voir, ces limaces, comme les appelle Plaute, avec les prostituées de luxe, les étahires, comme on les appelle à Athènes, qui sont de jolis jouets destinés à donner du plaisir aux amateurs, et surtout, on va le voir, destinés à être des signes extérieurs de richesse pour ceux qui vont les avoir à côté d'eux. Alors, ces prostituées dépendent généralement d'un léno, c'est-à-dire à Rome, mais on n'a pas le mot équivalent en grec, mais c'est-à-dire d'un proxénète, bien sûr, ou une proxénète. Parce que quand je dis un, dans le théâtre romain, c'est un homme, mais généralement, c'était quand même une femme, hein, qui était plus généralement la mère maquerelle de toutes ses filles. Alors, elles appartiennent à la haute galanterie, elles sont très très riches, très cotées sur le marché, ces femmes. Elles habitent à Rome, on sait qu'elles habitent des hôtels particuliers. Ce sont, je vous ai parlé tout à l'heure, des cocottes de la Belle Époque, c'est ça. Hein, tous les grands hôtels particuliers de Paris, qui ont été construits en particulier sur les Champs-Élysées, pour les grandes, comme on les appelait, les grandes horizontales de l'époque. Et elles vivent dans le luxe et dans l'élégance. Elles dépensent énormément, ces filles. Elles dépensent énormément pour leur fard, parce qu'elles se fardent beaucoup. Elles sont très, très douées pour tout ce qui concerne ce qu'elles se mettent sur la peau. Elles sont très douées aussi pour se faire des corps qui soient tout à fait désirables. Et c'est là où on commence à voir, effectivement, l'impératif d'être mince. Ce qui n'est pas le cas à une époque ancienne, qui n'est pas le cas des femmes, des citoyens. Les femmes de citoyens n'ont pas besoin, elles sont épaisses bien souvent, parce qu'elles ont eu beaucoup d'enfants, elles ne se soignent pas, et donc elles sont épaisses, alors que les prostituées de luxe, elles sont minces, elles sont belles, elles ont des vêtements extraordinaires, des vêtements de luxe, en particulier elles font venir des soieries qui viennent bien souvent par la route de la soie, hein, qui viennent de Chine, ou des tissus très transparents qui viennent des pays d'Asie, avec des couleurs extraordinaires. Nous avons des descriptions de ces vêtements où l'on voit des modes extraordinaires chez ces femmes avec des couleurs de vêtements. Et alors, ce qu'il y a d'extraordinaire, je vous parle pour Rome, hein, je ne vous parle pas tellement pour la Grèce, mais je vous parle pour Rome, c'est qu'au premier siècle de notre ère, les femmes de l'aristocratie vont commencer à imiter les prostituées, c'est-à-dire qu'elles vont se farder. Elles vont porter ces vêtements de luxe et on ne peut plus distinguer en quelque sorte dans la rue une femme honnête, comme on dit, et une femme entretenue, parce que finalement elles ont la même apparence physique. N'oubliez pas que c'est la même chose qui s'est passée en France, par exemple, entre les femmes du début du XXe siècle et les femmes de la fin du XXe siècle, qui ont emprunté les fards à des femmes qui n'étaient pas vraiment considérée dans la société. L'étaïr, ça veut dire la compagne. C'est un terme beaucoup plus élégant, compagne, que pornée. Mais enfin, c'est une pornée comme les autres, hein, mais c'est une compagne. Pourquoi ? C'est parce qu'elles vont être avec les hommes politiques. Alors, elles reçoivent chez elles. Elles ont des hôtels particuliers. Je vous renvoie pour ces réceptions, aux grandes réceptions que donne Nana chez Émile Zola. C'est tout à fait le même genre de réception. Où elles reçoivent tout le gratin de la politique, de l'art, de la bourgeoisie de l'époque. Soit, alors elles se rendent à domicile chez les riches particuliers. Elles sont louées, soit pour la nuit, soit pour le mois, soit même pour l'année. Et pourquoi ? C'est parce que ces prostituées de luxe ont des dons artistiques. Elles savent très bien danser. Elles savent jouer de la musique, elles savent chanter. Elles ont des dons artistiques très évidents. On leur a appris quand elles étaient petites, hein, tout cela. Et donc, elles sont capables d'entretenir les spectacles qui sont donnés au cours des banquets, que ce soit en Grèce ou que ce soit à Rome. Je vous renvoie à tous les vases grecs où l'on voit ces scènes de banquets et l'on a toujours une jeune femme qui est en train de jouer de la flûte ou qui est là en train de danser. Ce sont ces étaïrs qui font cette activité. Alors, les contrats de location, ce sont de véritables contrats de location, sont signés entre les proxénètes et les particuliers. Et les femmes, donc, sont louées. Alors, quelquefois, elles sont louées très chères. Hein. Elles aussi, je vous ai dit, c'est dans les milliers de drachmes ou de d'as pour Rome. Elles sont louées très chères. Et comme elles sont louées très chères, on a quelquefois des contrats de copropriété entre deux jeunes hommes qui n'ont pas l'argent nécessaire pour louer une prostituée. On a des exemples, hein, historiques. Deux jeunes hommes qui louent ensemble une prostituée et qui alternativement l'ont chez eux une nuit sur deux, quoi, en quelque sorte. Et puis on a aussi parmi ces prostituées les plus belles, les plus célèbres, celles que tout le monde connaît, qui sont appelées par de riches amateurs en Grèce, en Asie mineure ou dans les îles. C'est-à-dire qu'elles circulent. Hein, je vous dis, ce sont les call girls, en fait, de l'époque. Hein. Elles circulent parce que tel personnage, souvent des rois, d'ailleurs, ou des souverains, en particulier en Asie mineure, vont acheter pendant un mois ou un an les services de telle ou telle prostituée célèbre. Et c'est ainsi qu'elles vont devenir les compagnes des hommes politiques ou des grands personnages. On a effectivement, on sait que tous les grands hommes politiques d'Athènes ou de Rome ont eu à leur côté ces femmes extraordinaires. Et pourquoi ? C'est parce que, vous savez, dans l'Antiquité comme de nos jours, d'ailleurs, ça c'est pas propre à l'Antiquité, l'apparence d'un homme compte beaucoup. Et cette apparence, il y a différents signes de la richesse de cet homme. Et parmi les signes de cette richesse, il y a là où les prostituées qui l'accompagnent. Toutes ces prostituées célèbres, c'est pas leur nom d'origine, hein, ce sont des noms qu'on leur a donnés, bien entendu. Alors on a Laïs, par exemple, il y avait deux Laïs. Il y avait Thaïs qui a été la compagne pendant longtemps d'Alexandre le Grand, donc Alexandre le Grand avait Thaïs à ses côtés. Il y a Aspasie, c'est la plus célèbre, Aspasie. Aspasie, ça a été la maîtresse de Périclès et sa conseillère. C'est elle qui a été à l'origine de bien des mesures de Périclès à Athènes. Il y a Phrynée. Phrynée, c'est un nom curieux parce que Phrynée, en grec, ça signifie crapaud. Crapaud, pourquoi ? C'est parce qu'elle avait le teint un peu olivâtre. Elle avait le teint un peu verdâtre, comme un crapaud. Mais elle était très belle, Phrynée, puisqu'elle a été la modèle du peintre Pelle et du sculpteur Praxitèle. C'est elle que vous voyez dans les plus belles réalisations de Praxitèle, les plus belles statues de Praxitèle. C'est Phrynée, en fait, qui est représentée. Et puis, alors, on a tout le nom de beaucoup de ces femmes qui ont été très célèbres. Ce sont les actrices, en quelque sorte, de l'époque. On a, alors, quelquefois, c'est simplement un nom qui indique leur origine. On a l'Athénienne, on a l'Italienne. Et puis, on a de jolis petits noms qu'elles se sont choisis. Alors, on a Mélissa. Mélissa, qui, en grec, signifie l'abeille. On a Glycéra ou Glycéra, qui signifie doucette. La petite douce. Alors on a Boopis. Dans ça, Boopis, vous allez trouver que ce n'est pas un surnom très beau, mais en Grèce, c'est un très beau surnom. Ça signifie œil de vache. Et pourquoi ? C'est parce qu'on considérait, ce qui est vrai d'ailleurs, que les vaches avaient des yeux particulièrement langoureux. Et donc, qualifier quelqu'un de Boopis, la déesse Héra a été qualifiée de Boopis. À l'œil de vache, ça veut dire qu'elle avait de très beaux yeux. Il y a Phrynée, donc le crapaud. Et alors, il y en avait une, c'est amusant, je l'ai mise en dernier, qui s'appelait Clepsydre. Alors, Clepsydre, pourquoi s'appelait-elle Clepsydre ? La Clepsydre, c'est l'horloge à eau. C'est l'horloge, vous savez, de l'eau qui coule et qui détermine le temps. Et pourquoi l'appelait-on l'horloge à eau ? C'est parce qu'elle avait l'habitude de compter très précisément le temps qu'elle consacrait à chacun de ses clients. Et elle avait une horloge à eau, donc on l'avait appelée Clepsydre. Alors, pour mieux vous faire entrer, je vais évoquer rapidement la carrière d'une de ces prostituées que nous avons la chance d'avoir dans un discours grec qui a été attribué pendant très longtemps à Démosthène, en fait qui n'est pas de Démosthène. Et c'est donc un discours qui a été prononcé vers 340 avant Jésus-Christ et qui s'appelle le contre Néera. Alors Néera, au moment où l'on prononce le discours, est une bourgeoise athénienne d'une cinquantaine d'années et on lui a intenté un procès d'escroquerie. Pourquoi ? Parce qu'elle est accusée d'être d'origine étrangère et d'être mariée à un citoyen athénien, ce qui est complètement interdit par la loi grecque, par la loi athénienne. Un citoyen athénien ne pouvait pas épouser une étrangère. Or là, il y avait eu une escroquerie de la part des deux, parce qu'il y avait eu mariage entre les deux. Et ce contre Néera est le discours de l'accusateur anonyme, parce que ce n'est pas Démosthène, qui retrace, qui a l'avantage pour déshonorer Néera, de retracer toute sa carrière. Et Néera a été prostituée, on peut dire, pas dès la naissance, mais presque. Elle a été achetée avec 6 autres petites filles d'environ 4 ou 5 ans. Donc elle a commencé à être prostituée à 4 ou 5 ans par une corinthienne, une proxénète, qui s'appelait Nicarété. Et Nicarété, ça c'était, Néera fera la même chose d'ailleurs, Nicarété faisait passer les 7 fillettes qu'elle offrait à ses clients comme ses propres enfants. C'est-à-dire que ça lui permettait de faire monter les enchères. Parce qu'elle disait, vous voyez, ce sont des enfants libres, donc il faut que je vous demande très cher, parce que c'est interdit par la loi. Et donc les clients payaient plus cher. Et donc, cette Nicarété donne à ses protégés, à ses 7 petites protégées, une éducation luxueuses, comme dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire qu'elles vont en faire de très belles jeunes filles. Elles vont être à l'apogée de leur carrière vers 14 ou 15 ans, mais enfin, elles étaient déjà offertes à des clients à 4 ou 5 ans. Et puis, elles vont avoir de grandes compétences, puisqu'elles vont savoir chanter, danser, jouer d'un instrument de musique, savoir s'exprimer avec distinction, parce que là aussi, on leur donne une instruction de bonne manière. Là encore, on a des textes très drôles en grec et en latin, où on dit à ces jeunes femmes qui, en fait, échappent à la faim, il faut bien le voir, hein, elles échappent à une existence misérable en exerçant ce métier, on leur dit, même si tu as très faim, ne te jette pas sur la nourriture qu'on va te servir à table, fais semblant de ne pas avoir faim, ou bien n'utilise pas de mots grossiers, n'utilise que des termes de bien élevés, galants, parce que si les hommes n'aiment pas les femmes grossières. Donc il y a toute une éducation très précise, très sérieuse, qui est faite pour ces jeunes filles, probablement aussi pour les petits garçons. On a moins de textes sur les petits garçons, mais on sait bien que les petits garçons, eux aussi, étaient offerts aux amateurs. Et dans la clientèle de la maison de Nicarété, on sait qu'il y avait une clientèle d'hommes de premier plan. Alors, Lysias et Isocrate se trouvent au bas de la liste, vous le voyez. Il y avait un neveu de Démosthène qui a probablement été un des amants de Néhéra. On sait qu'il y avait des acteurs, qu'il y avait des poètes, qu'il y avait des artistes. Donc, c'est un milieu très mondain hein, qui fréquente ces maisons particulières, ces maisons closes. Et puis, Néhéra, elle doit avoir à ce moment-là 14 ou 15 ans, est achetée en copropriété, vous voyez, je vous en parlais tout à l'heure, par deux jeunes gens, et elle est achetée 3000 drachmes, c'est quand même beaucoup, puisque je vous rappelle que la journée d'un ouvrier, c'est une drachme, ou deux drachmes. Et elle reste quelque temps alternativement avec ces deux jeunes gens. Ces deux jeunes gens vont se marier et ils sont très délicats, ces deux jeunes gens, parce qu'ils vont affranchir Néhéra, qui jusque-là était esclave, hein, donc devait faire tout ce qu'on lui demandait. Elle devient une affranchie, donc elle a beaucoup plus de liberté d'action et elle va exercer sa profession à Athènes, c'est-à-dire qu'elle quitte Corinthe pour aller à Athènes, c'est pas bien loin, mais à Athènes, personne ne la connaît, donc elle a beaucoup plus de liberté d'action. Et on sait que toute la jeunesse dorée de la ville défile chez elle, qu'elle a une clientèle extraordinaire. Et ses banquets sont agrémentés de spectacles divers qui sont tous très fameux. Alors, entre-temps, elle a eu 3 enfants. Alors, je ne vous ai pas beaucoup parlé de ça, mais c'est vrai qu'elles avaient souvent des enfants, les prostituées. Bon, la plupart du temps, elles avaient des moyens de contraception qui étaient ce qu'ils étaient, enfin qui arrivaient à leur éviter d'avoir des enfants, ou bien aussi, elles savaient se faire avorter, ça, il n'y avait pas de doute, et puis, quelquefois, les enfants, elles les abandonnaient, mais elles en gardaient quelques-uns. Pourquoi en gardaient-elles quelques-uns? Elles avaient 2 filles et 1 garçon. Parce que ça leur permettait d'utiliser leurs propres enfants comme prostituées dans leur maison. Et c'est ainsi que la fille de Néhéra, c'est Phano, c'est celle qui est en haut de la liste, Phano. La fille de Phano était offerte à la clientèle par Nicarété et Néhéra, pardon, et son mari qui s'appelait Stéphanos. Je n'ai pas mis le nom du mari. Elle avait épousé un Athénien, ce qui était interdit, mais elle l'avait épousé. Donc, ils se servent de la petite jeune fille Phano, pour l'offrir aux clients, ce qui leur permet d'exercer un chantage sur leurs clients. Parce qu'ils disent « Ah oui, mais tu as couché avec ma fille. Or, ma fille est la fille d'honnêtes citoyens athéniens. Par conséquent, tu risques d'être arrêté. Tu risques de payer une amende très lourde. Si tu veux qu'on ne te dénonce pas à la police, tu nous verses tant. » Et donc, c'est comme ça qu'ils faisaient l'argent de leur ménage. Et cette petite Phano, considérée comme une Athénienne de pure souche, ce qu'elle n'était pas. Sa mère était étrangère, mais bon, la mère s'était fait passer pour Athénienne. Et ce qui est le pire, c'est qu'elle est tellement appréciée qu'ses parents vont lui faire épouser ce que l'on appelle... Alors l'archonte III, c'est un prêtre romain, c'est un Athénien prêtre, et c'est le prêtre le plus vénéré d'Athènes. C'est celui qui participe aux cérémonies les plus importantes de la religion athénienne. Et sa femme participe aussi, la femme de l'archonte III a aussi un rôle très grand dans la religion athénienne. Donc vous vous rendez compte du scandale lorsqu'on va découvrir que la femme de l'archonte III, non seulement n'est pas athénienne, véritablement, puisque sa mère est une étrangère, que d'autre part, elle s'est livrée à la prostitution, enfin, contrainte et forcément, enfin, elle avait été prostituée dans sa prime jeunesse. Donc, on va avoir un procès, ce fameux procès contre Néhéra, et qui est très, 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 très rempli de détails sur la vie, justement, des prostituées. On ne sait pas quel a été le jugement après le procès, si Néhéra et son mari ont été acquittés ou non, mais c'est vrai qu'ils ont été véritablement démolis par leur accusateur. Alors, c'est pour ça que nous connaissons quand même bien la carrière d'une prostituée depuis la plus petite enfance, puisque je vous dis, elles avaient 4 ou 5 ans quand ces petites filles ont été achetées. Et ce ne sont pas les seuls exemples, hein. Les petites filles étaient très... Les petits garçons aussi. Je dis toujours les petites filles, mais je devrais dire garçons et filles, parce que c'était la même chose. Et c'est vrai que ce sont des enfants qui n'ont rien connu d'autre, en fait, dans leur enfance, hein, qui ont tout été toute leur vie dans ce milieu très particulier, sauf peut-être Néhéra qui en était sortie. Alors, quel est, pour terminer, le jugement qu'ont les anciens sur la prostitution ? Parce que c'est vrai, nous voyons bien de nos jours, il y a beaucoup de jugements sur la prostitution, il y a des gens qui voudraient la faire interdire, ce qui est, je crois, un peu utopique, il y a des gens qui voudraient faire condamner les clients des prostituées chez nous. Dans l'Antiquité, c'est pas du tout la même chose. Dans l'Antiquité, je vous ai dit, c'est lié à l'esclavage. C'est une mesure de salubrité publique. Alors, j'ai ramassé un certain nombre d'appréciations d'anciens sur la prostitution. Et, bien entendu, celle qui a l'autorité de l'Église chrétienne, puisque saint Augustin lui-même, qui dit « Bannis les prostituées de la société ». Et tu réduis la société par la luxure insatisfaite. Bon, Plaute lui-même explique pourquoi, finalement, la prostitution, c'est pas bien grave. Personne ne t'interdit d'aller chez les proxénètes, ni ne t'empêche d'acheter, si tu en as les moyens, ce qui est à vendre. On n'a jamais interdit à personne d'aller sur une voie publique. La voie publique étant ici, évidemment, la prostituée. Pourvu que tu ne traces pas un sentier à travers un territoire privé. Pourvu que tu ne touches pas à une femme mariée, à une veuve, à une vierge, à un jeune homme ou à des enfants de naissance libre, aime qui tu veux. De la même façon, Cicéron écrit « En vérité, s'il y a quelqu'un pour penser que l'on doit même interdire à la jeunesse la fréquentation des prostituées, c'est à coup sûr un rigoriste, mais qui est en désaccord non seulement avec la licence de notre siècle, mais aussi avec la morale et la tolérance de nos ancêtres. Existe-t-il une époque où l'on ait blâmé cette conduite et considéré comme illégal ce qui, de nos jours, est légal ? Et enfin, je vous raconte cette petite anecdote. Caton l'Ancien, qui a été un des grands hommes politiques du IIe siècle avant Jésus-Christ à Rome, qui était connu pour sa rigueur, hein, pour son respect de la morale. Et un jour, qui passait près d'un lupanar, il voit un jeune homme qui en sort. Et il lui dit, ben, c'est très bien mon garçon, tu fais très bien, comme ça tu ne t'attaques pas aux femmes mariées, aux enfants. Et puis, quelques jours après, il passe toujours devant le même lupanar, il voit le même jeune homme qui sort du lupanar. Et il dit, jeune homme, je t'ai félicité en croyant que tu venais là de temps en temps, mais je ne pensais pas que tu y habitais. Donc, pas vraiment choqué, mais enfin pensant qu'il y a peut-être d'autres activités pour un jeune citoyen romain que d'aller voir les prostituées. Alors voilà ce que je pouvais vous dire sur la prostitution. Vous avez certainement des questions à me poser. Merci. Alors, il y a des micros, je crois, qui circulent, vous voyez, à droite et à gauche. Donc, usez et abusez. Oui, monsieur.
Bonjour, madame. Il y a une question que je me pose. D'après la description que vous en avez faite, est-ce qu'il n'y avait pas beaucoup de maladies et comment est-ce ça se passait?
C'est-à-dire qu'il n'y avait pas les mêmes maladies que de nos jours, parce que la plupart des maladies vénériennes sont beaucoup plus récentes dans nos civilisations. Mais il y avait des maladies, oui. Alors là, on a des textes aussi très, très savoureux, si on peut dire, hein, sur les différentes maladies que l'on pouvait attraper avec les prostituées. Oui, il y avait évidemment toutes les maladies que nous connaissons, les maladies sexuellement transmissibles, elles existaient. Peut-être, elles existaient bien sûr, avec des traitements. Alors, vous savez, les traitements dans l'Antiquité, c'était toujours un petit peu aléatoire, mais enfin, il y en avait, oui.
Est-ce qu'il y avait quand même, est-ce que c'était l'unanimité parmi la classe, je dirais la classe dominante, ou bien est-ce qu'il y a eu quand même des personnalités qui s'opposaient à ce système-là?
Non, on s'opposait pas, c'était des esclaves. Ah, excusez-moi, j'ai l'air très brutal comme ça.
Ne
croyez pas que j'approuve l'esclavage ni la prostitution telle qu'elle était pratiquée, comme je vous en ai parlé. Mais ça faisait partie des esclaves. Les esclaves, il y avait des hommes ou des femmes, c'était surtout des femmes d'ailleurs qui étaient Lina. Et il y en a. Non, ça faisait partie. C'était une façon de tirer de l'argent de petites filles, de petits garçons, de jeunes femmes. Non. Vous voyez, les quelques jugements que je vous ai lus sont quand même d'hommes importants de l'Antiquité. Il y a Caton l'Ancien, il y a Cicéron, il y a Saint-Augustin, ce sont quand même des hommes importants. Ils ne trouvent pas ça choquant, parce que c'est une façon d'utiliser un corps humain comme on peut utiliser un corps humain à la campagne pour moissonner dans les champs, dans les ateliers ou dans d'autres fonctions. Non, ça ne choquait pas. Simplement, on trouvait ce qu'on pouvait condamner. Vous voyez que le jeune homme, Caton l'Ancien, ne le condamne pas du tout. Il y a des passages où l'on voit des personnes âgées qui vont à Subur, des personnes âgées de bonne, bien sûr, qui appartiennent à la bonne société. Alors on leur dit, écoute, c'est quand même pas tellement l'endroit pour un monsieur âgé. Tu pourrais faire venir chez toi plutôt que d'aller dans ces quartiers malfamés de Subur. Mais là aussi, on ne le condamne pas vraiment. On dit, bon, c'est peut-être plus de ton âge, mais après tout, si ça te fait plaisir, personne ne s'y oppose.
Donc même les enfants, ça ne pose pas de problème?
Non, pas du tout. Pas du tout. Non, je vous dis, c'est, pour nous, c'est épouvantable. Mais c'est vrai qu'on voit dans les textes les petites filles et les petits garçons. Les petits garçons vont d'ailleurs être des objets sexuels jusqu'à la première barbe. C'est la première barbe qui va... qui va les écarter du marché du sexe, bien souvent. Pas toujours, mais bien souvent.
Moi, je suis intéressée de savoir si ces femmes pouvaient sortir de leurs conditions, par les étaillir notamment. Vous avez parlé du fait qu'elles pouvaient être libérées, mais qu'est-ce qu'elles pouvaient devenir au-delà de ça?
Elles ne pouvaient pas devenir grand-chose, parce qu'il fallait qu'elles gagnent leur vie. C'est tout le problème de la subsistance. Alors, vous avez les plus riches qui avaient ces hôtels particuliers, mais quand elles étaient... Vous savez, dans l'Antiquité, à 30 ou 40 ans, on est déjà un peu passé de mode. Hein. Et alors, leur seule... Et ça, on en a beaucoup d'exemples. Leur seule façon de s'en sortir, c'était d'élever à leur tour des petites prostituées. Et on voit ça. Alors, on a des cas très exceptionnels. On a un cas historique à Rome, au IIe siècle avant Jésus-Christ, d'une prostituée, mais d'une étaïr. Enfin, le terme n'existe pas en latin, mais quand j'emploie étaïr, c'est pour dire une prostituée de luxe, qui était qui avait pour compagnon un très jeune garçon de la bonne aristocratie romaine, et qui va révéler aux autorités romaines un complot. Alors ça aussi, je n'entre pas, c'est très compliqué, je n'entre pas dans l'histoire du complot. C'est en fait une secte religieuse qui est tout simplement la secte des Bacchants, c'est-à-dire des adeptes de Dionysos, à qui on reproche justement des crimes ou des incestes. Et pour remercier cette jeune femme de l'aide qu'elle a apportée à l'État en révélant cette conjuration, le Sénat romain va lui permettre d'épouser légalement son jeune amant, et elle va devenir femme de citoyen romain. Mais c'est tout à fait exceptionnel, hein, parce que là, c'est lié à un épisode historique. Sinon, Si elles étaient prévoyantes, elles ramassaient de l'argent et elles pouvaient vivre jusqu'à la fin de leur jour en exploitant à leur tour, hein, parce qu'elles ne sont pas non plus innocentes. Sinon, elles mourraient dans la misère. Je pense très souvent, je vous en ai déjà parlé, à la nana d'Émile Zola, cette nana qui a eu une existence somptueuse et qui finit, elle aussi, pas dans le caniveau, mais presque. Et c'est ça, en fait. Ce ne sont pas des existences qui sont protégées du tout, du tout, du tout.
Tel que vous le présentez, on dirait que les clients sont que des hommes. Est-ce que c'est vraiment le cas ?
Oui. Oui, ce sont des hommes. Oui, mais il y a peut-être eu, on ne sait pas, il y a peut-être eu quelques femmes. Mais nous n'en avons pas de témoignages sur ces femmes. Oui, ce sont des hommes, essentiellement. Des femmes, peut-être. Mais je ne peux pas vous le garantir parce que je n'ai pas d'exemple qu'on puisse accepter. On a quelquefois dans les poèmes satiriques, oui, allusion à des femmes qui vont voir d'autres femmes. Mais il s'agit plutôt de membres de la bonne société qui en fait ont des amantes parmi d'autres femmes de la bonne société. On a, je crois, un exemple chez un poète latin qui s'appelle Martial, qui est un poète de la fin du 1er siècle de notre ère, où il est question d'une femme honorable qui va voir des prostituées. Mais là aussi, on ne sait pas très bien. Vous savez, dans la poésie satirique, on a la réalité et on a aussi la légende. Alors, on ne sait pas très bien si c'est exact ou non. Ça, je ne peux pas vous donner de précision historique, disons, dans ce domaine. Mais ça existait probablement.
Et est-ce que les éphèbes étaient parfois considérées comme des prostituées ou pas du tout ?
Oui. Éphèbe est un mot qui, en Grèce, désigne le jeune homme. Hein, ça désigne le jeune homme jusqu'à l'âge jusqu'à 18 ou 20 ans, à peu près. Mais c'est vrai que les jeunes prostituées masculins étaient vendus comme jeunes éphèbes. Enfin, éphèbe ne désigne pas que des prostituées. Un éphèbe, c'est un jeune homme dans le monde grec. Hein, c'est une catégorie dans l'armée. Il y a les éphèbes qui sont les jeunes recrues de l'armée. Donc c'est un terme qui a énormément d'acceptions en grec.
L'apparition du christianisme dans l'Empire, est-ce que ça modifie les...
Pas tellement si on juge saint Augustin qui écrit quand même ça au 5e siècle de notre ère. Hein. Mais quand même, c'est vrai que la prostitution a été condamnée quand même par les chrétiens. Et on a un exemple de saint Augustin, toujours, parce qu'avec chez lui on trouve tout, qui va faire condamner un prêtre qui, en voyage, je dirais professionnel, en fait, de prêtre, je crois que c'était en Afrique, puisque saint Augustin était d'Afrique, alors qu'il était logé chez le curé d'une paroisse, enfin, je dis curé, ça ne s'appelait pas curé à l'époque, enfin, l'équivalent du curé d'une paroisse, était allé voir une prostituée. Alors là, quand même, saint Augustin l'a condamné. Mais on voit bien que lorsque saint Augustin parle de la société, il estime, comme l'estimaient les Grecs et les Romains, que la prostitution était une fonction salutaire pour le maintien d'une société.
Vous avez titillé l'esprit avec votre dernière phrase sur le rapport à la magie.
Oui, non, c'est parce que je vous ai apporté là des articles que j'ai faits il y a longtemps déjà, un certain nombre sur les prostituées de Rome et l'autre sur, ça doit s'appeler la magie à Rome, je crois.
Mais ça n'a pas de rapport.
Ça n'a pas de rapport. Souvent, les magiciennes étaient des prostituées. Hein. On a des prostituées parmi les magiciennes. C'était une autre façon de gagner sa vie. Mais évidemment, ça n'a pas un rapport direct, disons. Hein. C'est pas la magie. Il y a de tout dans la magie en Grèce, à Rome, dans l'Antiquité, comme de nos jours d'ailleurs. On a la magie religieuse, on a la magie. La magie qui était la plus pratiquée, c'était la magie des retours d'affection, c'est-à-dire lorsqu'on avait un amant ou quelqu'un qu'on aimait qui vous abandonnait. Alors là, on allait voir les magiciennes pour qu'elles fassent des filtres d'amour ou qu'elles fassent des... Mais vous verrez, si vous lisez ça, vous verrez que les procédés qui étaient utilisés par les magiciens dans l'Antiquité... Bon, je parle de Rome dans cet article. On trouverait la même chose en Grèce, dans tous les pays anciens, dans tous les pays modernes. C'est à peu près les mêmes. C'est-à-dire qu'on a des poupées qu'on perce d'épingles. On a des figurines de cire qu'on fait fondre dans la flamme d'une chandelle. On a, alors le plus terrible, mais ça évidemment j'en parle, mais les deux magiciennes dont il est question, que j'évoque, qui font cet acte criminel épouvantable, c'était des prostituées romaines. On les connaît comme étant prostituées romaines. Eh bien, elles savent que les organes d'un petit enfant sont particulièrement bons pour les séances de magie. Et donc, elles ont volé un petit enfant sur la voie publique. Enfin, elles ont pris un petit enfant sur la voie publique. Elles sont allées dans un cimetière. Elles l'ont enterré jusqu'au cou. Cet enfant vit toujours. Hein, et elles le font mourir de soif et de faim pour pouvoir récolter en particulier son foie et son cœur, une fois qu'il sera mort, pour en faire des potions magiques. Et c'est quand même lié au monde de la prostitution, même si, évidemment, ça n'a pas un rapport direct. Mais bien souvent, dans l'Antiquité, on voit que prostituées et magiciennes appartiennent au même milieu. Je ne sais pas si je réponds à votre question, madame, mais évidemment, ça n'a pas de rapport direct. Mais dans l'Antiquité, c'est un rapport quand même.
Oui. À un moment dans votre discours, vous dites que même les esclaves vont voir les prostituées.
Ah oui.
Comment est-ce qu'ils les payaient, du coup ?
Ah ben, les esclaves avaient de l'argent. Enfin, avaient de l'argent. Pas beaucoup, bien entendu. Mais vous savez, quand ils rendaient des services au maître ou à un visiteur du maître, bien souvent, on lui donnait une pièce de monnaie. Et c'est ainsi que l'esclave constituait ce qu'on appelait son pécule. Le pécule était l'argent que pouvait ramasser, mais ça, c'était dans les maisons où l'esclave était bien traité, que pouvait ramasser un esclave pendant sa vie d'esclave. Et ça lui permettait éventuellement de racheter sa liberté par la suite. Et l'esclave avait à sa disposition un pécule qui venait soit de pièces qui lui étaient données en cadeau parce qu'il avait fait une bonne action, ou bien de vol aussi parce qu'ils avaient pu voler une pièce à droite ou à gauche. Et mais je vous ai dit, le prix d'une prostituée dans les quartiers populaires, c'était rien du tout. C'était le prix de deux verres de vin, donc c'était quand même pas très cher. Donc c'était cet argent-là qu'ils utilisaient.
Bonsoir.
Oui, bonsoir.
Je me demandais, en fait, je me posais la question de savoir dans quelle mesure cette organisation, en fait, permettait, ou est-ce qu'on a les moyens de savoir dans quelle mesure ils pouvaient, d'une certaine façon, éviter les viols, etc. Je ne sais pas si...
Ils pouvaient...
Éviter les viols, ah, éviter circonscrire les...
Oui, pour eux,
la criminalité.
C'était une façon d'éviter les viols.
Oui, mais est-ce que vous avez le moyen de mesurer ça d'une façon ou d'une autre ?
Non, mais comme de nos jours, où on dit que ce n'est pas les prostituées, toutes les filles honnêtes y passeraient. Bon, ça, c'est un argument qui n'en est pas vraiment un. Non, on ne sait pas si ça pouvait vraiment éviter les viols. Mais c'est ce que disaient les défenseurs de la prostitution. Ils disaient la salubrité de la société repose sur les prostituées, parce qu'elles permettent d'éviter que les jeunes gens s'attaquent au viol des femmes mariées, des jeunes filles vierges, des veuves, des enfants, bien sûr, des enfants. Et puis surtout, cela permet d'éviter qu'il y ait des enfants conçus dans des conditions qui ne soient pas régulières. Hein, puisque s'il n'y avait pas les prostituées, on peut leur faire des enfants, de toute façon, elles les feront passer ou elles les tueront à la naissance. Enfin, il y a beaucoup de façons de faire disparaître un enfant, on le sait bien. Et c'est vrai que, mais vous savez, l'argument de la salubrité publique, bon, c'est un argument de moralisateur. Hein, je ne sais pas si de nos jours, si dans l'Antiquité, il pouvait tenir véritablement, et si de nos jours il peut tenir véritablement. Je suis sceptique à ce sujet, malgré tout. Je crois qu'il y avait quelqu'un, oui.
Et du coup, ça devait être aussi le refuge de tous les meurtriers ou les gens qui ont des pulsions autres que sexuelles. Du coup, est-ce qu'il y avait beaucoup de meurtres de prostituées ?
Les meurtres, oui, dans l'Antiquité, il y en avait beaucoup, évidemment, mais comme dans toutes les civilisations, il y avait des meurtres partout. On sait qu'il y avait des descentes de police dans les tavernes, justement, parce qu'il y avait des meurtriers qui étaient repérés, donc pour repérer les meurtriers. Mais on dit que là aussi, ça supprime. Enfin, mais je vous dis, c'est l'argument des moralisateurs, ça, hein, l'argument des moralisateurs qui disent, et ainsi, il y aura beaucoup moins de meurtres. Parce qu'un jeune homme, qui a l'esprit chaud, il ira dans un lupanar et il satisfera ses envies. Alors que s'il n'a pas une prostituée, il va violer un enfant ou une jeune vierge et ensuite il va les tuer, hein, pour éviter qu'il les dénonce. Je crois que s'il y en a parmi vous qui sont un peu au courant des circonstances, à la fois des viols, des crimes et tout ça, que c'est quand même pas un argument qui tient la route très longtemps. Même si pour, aussi bien Caton l'Ancien, donc 2e siècle avant Jésus-Christ, Saint Augustin, 5e siècle après Jésus-Christ, c'est le même argument en fait. Hein. On dit ça, la grâce à la prostitution, la société peut rester solide et pure et saine.
Et personne n'a essayé de s'inspirer de Solon plus tard.
Non, ce qui est curieux, parce que quand même Solon, hein, c'était bien, enfin bien. C'était intéressant ce qu'il avait fait. Bon, il avait réparti les prostituées dans la ville, bon, ça encore. Mais surtout, il avait trouvé moyen d'en faire de l'argent. Hein, quel homme politique, un homme politique pourrait utiliser. Je ne sais pas si on peut conseiller ça actuellement à nos hommes politiques, mais c'est une façon de faire de l'argent. Hein, puisque ce pornicone était prélevé par des percepteurs de l'État. C'était l'État qui prélevait cet impôt.
Dans les fresques et les peintures et les machins qu'il y a à Pompéi, est-ce qu'il y a du sadomasochisme ?
Ah, alors sadomasochisme, on a des exemples de sadomasochisme, pardon, dans les poèmes satiriques, ça c'est vrai. Qu'on a des... alors attendez, je réfléchis un peu. Il me semble qu'il y a une fresque de Pompéi où l'on voit un homme qui fouette une femme, il me semble. Il me semble, il y en a un ou deux, il n'y en a pas beaucoup. Non, c'était les anciens masochisme ou sadisme. Sadisme, oui, il y en avait. Enfin, il y avait quand même des exemples célèbres à Rome avec Caligula et Néron qui étaient quand même de grands sadiques, hein, l'un et l'autre. Mais masochisme, moins, je crois. Enfin, j'en ai moins d'exemples en tête. Sadisme, oui. Mais les fresques de Pompéi, vous savez, elles sont quand même destinées à représenter... vous pensez peut-être aux fresques du Lupanar de Pompéi, oui. Non, il n'y a pas de fresque représentant une femme en train de fouetter un de ses clients. Mais on a toute une série de positions, on peut dire, représentées par ces demoiselles, ces dames. Et je pense qu'à l'heure actuelle, elles doivent se trouver dans le cabinet secret du musée national de Naples, cabinet secret où tout le monde peut aller. Maintenant, autrefois, c'était interdit. Maintenant, c'est permis, à condition, évidemment, de payer un petit peu.
Bonjour. J'aurais souhaité savoir, est-ce qu'une prostituée ou une taïre peut être achetée à vie au-delà d'une année ?
Ah oui. Oui, ben, par exemple, Aspasie a été la compagne permanente de Périclès. Hein. Elle était toujours... Alors, on ne sait pas très bien si Périclès versait, continuait à verser aux proxénètes qui avaient formé Aspasie, s'il continuait à verser des sommes d'argent. Ce qu'il y a, c'est qu'Aspasie était en quelque sorte la femme de Périclès. Périclès avait une femme, hein, une femme légitime, une Athénienne légitime, mais Aspasie était en permanence avec lui, elle a passé 30 ans avec lui. Et c'est elle qui a été à l'origine de la plupart des grandes réalisations de Périclès, en particulier les réalisations architecturales, donc beaucoup à Aspasie. C'était une femme d'une très grande intelligence, très cultivée, très belle certainement aussi, et qui a été la grande inspiratrice de Périclès. Mais là, c'est un point sur lequel nous n'avons pas vraiment de renseignements, savoir si toutes ces grandes courtisanes qui étaient auprès des hommes politiques ou des souverains ou des artistes, parce que les artistes aussi avaient des péripatéticiennes à leur côté, nous ne savons pas si on continuait à payer à celui qui avait été le propriétaire de l'étaïre en question, si on continue à payer. Parce que dans le système, bon, je ne suis pas entré dans le système de l'esclavage et de l'affranchissement, que ce soit en Grèce ou à Rome, mais l'affranchi en Grèce et à Rome continuait à avoir des devoirs à l'égard de son ancien maître. C'est-à-dire qu'elle n'était jamais entièrement détachée de celui qui avait été son maître ou sa maîtresse pendant l'esclavage. Là, pour ces grandes dames, en quelque sorte, de la société romaine, on ne sait pas très bien. On ne sait pas très bien, probablement quand même, leur réputation rejaillissait sur la maison dont elles étaient originaires, on pense. Écoutez, je vous remercie de votre attention. Merci.